France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'aventure scientifique hors norme et la mort tragique des volcanologues français Katia et Maurice Kraft. Leurs homologues américains les surnommaient les diables des volcans. Pendant près de 25 ans, Katia et Maurice Kraft ont parcouru le monde avec leur sac à dos, leurs cartes topographiques, leur appareil photo et leur caméra pour observer, filmer et étudier les éruptions volcaniques. Mieux que quiconque, ils savaient admirer la beauté du magma en fusion, la force brute des coulées pyroclastiques et la magie des coulées de lave. Mieux que quiconque, Katia et Maurice Kraft connaissaient les dangers, les risques et les limites de leur activité. Mais malgré leur expérience et toutes leurs précautions, cette passion pour les volcans va finir par les dévorer au début de l'été 1991. Aujourd'hui, il nous reste leur héritage, plus de 300 000 photos, 800 heures de films, des dizaines de livres et la plus grande collection d'objets liés au volcanisme. Un legs scientifique inestimable qui nous permet de mieux comprendre les volcans et de nous protéger contre cette nature à la fois aussi belle que violente. Nos invités aujourd'hui, le volcanologue et muséologue André Demaison, ami intime de Maurice et Katia Kraft. Il les a accompagnés dans plusieurs de leurs expéditions pendant 19 ans. Il est l'auteur d'un livre qui revient sur leur aventure, intitulé « Les diables des volcans », justement, paru en 2011 aux éditions Glénat. Avec nous également, le producteur et réalisateur Julien Dumont, directeur du musée du cinéma miniature de Lyon. Il prépare, lui, un long métrage sur l'histoire des Kraft. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Charles de Silla.
France Inter.
Au Japon, l'éruption volcanique dans le sud-ouest du pays a fait, selon un dernier bilan, 14 morts, une trentaine de disparus et des dizaines de sans-abri. Plusieurs dizaines de soldats japonais revêtus de combinaisons spéciales sont partis ce matin à l'assaut du volcan à bord de chars pour essayer de récupérer des corps qui ont été repérés par hélicoptère. On est toujours sans nouvelles d'une quinzaine de journalistes japonais et de trois étrangers, un chercheur américain et un couple de volcanologues français, Maurice et Katia Kraft.
Mardi 4 juin 1991, un déluge de cendres s'abat sur l'île de Kyushu. Dans le ciel sombre du Japon, on aperçoit un hélicoptère militaire. À son bord, une équipe de télé locale filme les premières images aériennes des conséquences de l'éruption du volcan Hunzhen. Aux commandes de l'appareil, le pilote tente de maintenir sa trajectoire face à une météo exécrable. Assis à l'arrière, le caméraman observe dans son téléobjectif le paysage dantesque qui défile là, à une centaine de mètres sous ses pieds. Sur les images filmées ce jour-là, on découvre une sorte de sol lunaire, monochrome, fumant, où il n'y a plus aucune végétation, plus aucune vie. La veille, l'Hunzhen, géant de roche endormi depuis près de 200 ans, est entré en éruption. D'après les premiers éléments rapportés par les scientifiques japonais, tout est allé très vite. Le dôme du volcan s'est d'abord en partie effondré sur lui-même du fait de la libération des gaz contenus sous terre. Puis, des milliers de tonnes de débris de roches volcaniques, certains de la taille d'une maison, sont expulsés vers le ciel. Avant qu'enfin, une nuée ardente de plus de 500 degrés, avalanche de gaz brûlant, de blocs de roches et de cendres mêlées, dévale les pentes à plus de 200 km/h, dévastant tout sur son passage. 24 heures après l'éruption, on dénombre des centaines de maisons incendiées, des dizaines de véhicules emportés et des milliers d'hectares de forêts ravagées. Une cinquantaine de personnes manquent également à l'appel. Parmi elles, donc, les volcanologues français Katia et Maurice Kraft, qui s'étaient rendus sur place.
Salut Toto, ici c'est Maurice. Nous partons au Japon pour une éruption. Nous sommes mardi midi, nous sommes à l'aéroport. Il y a une éruption à Hunzhen qui m'intéresse beaucoup. Donc on est revenu hier de Martinique. On pensait rester chez nous et venir à Paris. Et on repart aujourd'hui au Japon. Voilà. On vous embrasse. Au revoir.
Voilà plusieurs jours que la région de Kyushu, située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la ville de Nagasaki, dans l'extrême sud-ouest du Japon, est noyée sous des pluies diluviennes. plusieurs jours également que nous aient montré des signes inquiétants d'un possible réveil. Grâce à leur petite voiture de location, Katia et Maurice Kraft réussissent à se rendre au plus près pour observer le volcan. Là, au milieu d'un champ, ils retrouvent l'un de leurs vieux amis, le volcanologue américain Harry Glickan. Comme Katia et Maurice, Glickan a la réputation d'être un scientifique atypique. L'Américain refuse de se cantonner à l'espace de recherche de son labo. Comme Katia et Maurice, il veut voir, sentir, toucher, pour mieux comprendre, mieux analyser et surtout pouvoir mieux expliquer les phénomènes en jeu lors d'une éruption volcanique. La volcanologie est la science de l'observation et de la patience. Le plus près vous êtes, le mieux vous pouvez comprendre les phénomènes qui ont lieu et le mieux vous pouvez les expliquer, avait pour habitude de répondre Katia aux journalistes, et je la cite. Mais qui dit s'approcher d'un volcan en éruption sous-entend aussi augmenter le risque d'accident. Interrogé sur cette question par Radio France Internationale, puis après leur arrivée au Japon, Maurice Kraft précise.
J'ai entre autres étudié l'éruption du Mont Saint-Helens, où un souffle est parti du volcan et ce souffle est à 1000 km à l'heure. Et je veux dire, dans les volcans explosifs, donc les volcans qui tuent, nous ne sommes que 50 volcanologues à les étudier. Et c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai eu 2-3 collègues qui ont été déchiquetés par les éruptions. Enfin, c'est notre métier, c'est normal. On prend des risques, parce que les volcans explosifs, ce sont des bombes, les mèches sont allumées et on ne connaît pas précisément la longueur de la mèche. Donc il faut être assez prudent. Et le jour où un volcanologue se trompe sur un volcan explosif, il est déchiqueté.
Ce lundi 3 juin, en milieu de journée, Maurice Kraft, accompagné de leur ami et confrère Harry Glickan, franchissent le cordon de sécurité et entrent dans la zone d'exclusion du volcan. Les autorités japonaises ont donné l'autorisation exceptionnelle à quelques scientifiques et à la presse d'y accéder pour quelques heures. Les trois volcanologues veulent en profiter pour réaliser des prises de vue au plus près du phénomène. Sur les images filmées par une équipe de télévision japonaise, on aperçoit Maurice déployer le trépied de sa caméra. À ses côtés, Katia, les yeux rivés sur ses jumelles. Les deux fixent le dôme du volcan, situé à environ 3 km à vol d'oiseau et quelques centaines de mètres plus haut, pour l'instant, caché par les nuages. Autour, le ciel sombre se fait de plus en plus menaçant. La pluie continue de ruisseler sur le sol. Il est un peu plus de 16 heures lorsqu'une épaisse brume recouvre les environs. Le cliquetis de la pluie et les bourrasques de vent rendent difficile la perception des sons venant du volcan. Quelques minutes plus tard, une nappe noire immense envahit le ciel. Puis, des gens se mettent à courir. Et en une poignée de secondes, Katia, 49 ans, Maurice, 45 ans, et leur ami Harry, 33 ans, sont avalés par le manteau de cendres brûlantes qui se dépose à plus de 6 km des cratères. Ensuite, un silence obscur, profond, pesant, recouvre toute l'île de Kyushu. Le volcan Unzen vient d'entrer en éruption. Katia et Maurice Kraft sont portés disparus.
Il y a beaucoup de couples volcanologues dans le monde ?
Oh, écoutez, je ne sais même pas s'il y en a, non. De volcanologues à proprement parler, c'est extrêmement rare. En tout cas, moi, j'appelle volcanologues des personnes qui étudient les volcans actifs, par exemple. Et là, on peut dire qu'il n'y en a pas, non. Ou alors peut-être qu'on ne les connaît pas, mais je les plains. C'est très dur, deux volcanologues qui vivent ensemble, parce que c'est très volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent.
L'autre jour, justement, il se précipite sur un cône qui était actif.
Le Mauna Loa,
il était en train de se refroidir, donc à ce moment-là, il y a des fissures qui se forment dans ce petit cône. C'était pas très grand, hein. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans un trou.
Et elle m'a poussé dedans.
Est-ce qu'on devient de plus en plus raisonnable au fur et à mesure que les années avancent ou c'est le contraire?
On a des opinions qui diffèrent.
Ah, oui. Katia est plus raisonnable.
Non, moi je dirais qu'il y a des bêtises qu'on fait au début, de se précipiter dans des cratères un peu n'importe comment. Et après on se dit, tiens, il aurait pu arriver ci ou ça. Donc dans une certaine mesure, on est plus raisonnable.
Repartons 23 ans plus tôt, en Islande, à l'été 1968. Deux personnes portant bonnet rouge chargent le coffre d'une petite 4L blanche qui vient de débarquer avec sa remorque sur les docks du port de Reykjavik. Sur le flanc du véhicule, trois fines lignes de couleur bleu, blanc, rouge et un autocollant de lettres noires sur lequel on peut lire « Expédition Volcan d'Islande » et un peu plus loin sur l'aile arrière, avec le soutien de la ville de Mulhouse, un équipage composé de Maurice Kraft, Katia Kraft et Roland Haas. L'aventure a été organisée avec les moyens du bord, et en partie grâce à la générosité des amis et de quelques industriels alsaciens. Peu avant de s'engager sur les routes sinueuses et cabossées d'Islande, à la rencontre des volcans donc, Maurice Kraft, 22 ans, Katia, 26 ans, et leur ami Roland Haas prennent une photo de groupe. Un tout petit groupe qui ne dispose en tout et pour tout que de quelques vivres, du matériel de camping, une carte militaire du pays, des informations des volcanologues locaux et surtout le matériel de prise de vue. Une caméra pour Maurice, un appareil photo pour Katia. Pour ce premier grand voyage d'études et d'exploration, les Kraft ont choisi de se rendre en Islande à cause de la particularité du relief de cette île située dans l'extrême nord de l'océan Atlantique, comme l'explique Maurice Kraft.
L'Islande, c'est vraiment le paradis du volcanologue, car l'avantage du paysage islandais, c'est qu'il n'y a pas de végétation, ou presque pas. Si bien qu'il n'y a pas de terre non plus, et le géologue voit les roches. On pourrait presque dire que si vous faites une photo aérienne de l'Islande, vous avez immédiatement la photo géologique, la carte géologique. C'est-à-dire, les terrains, ils sont tout de suite, il n'y a pas l'herbe, il n'y a rien. Donc on voit très bien les formes, on voit très bien les structures, et on peut se rendre compte des activités volcaniques et de ce qui s'est passé en Islande.
Est-ce que vos financiers n'ont pas été impressionnés par de voir une femme s'embarquer dans une telle aventure ?
Non, je ne crois pas, non. D'après moi, qu'on soit femme ou homme pour ce métier, il n'y a pas de problème. On demande les mêmes qualités à l'un ou à l'autre.
C'est difficile quand même.
Il faut avoir des qualités sportives peut-être, ne pas
vous
aimer
vous
le confort. Un peu, oui. Pas spécialement.
Premier volcan à croiser la route des Kraft, ou inversement, l'éclat. Mais petite déception, il n'a pas grand-chose à voir, bon, à part une fumerole. Sauf qu'à 1500 mètres d'altitude environ, les trois volcanologues peuvent apercevoir d'autres volcans aux alentours, et cela semble être bien plus actif. Un spectacle fascinant, qui est aussi une prise de conscience et une confirmation pour les Kraft. Étudier les volcans ne peut pas se faire en laboratoire, il est impératif d'être sur place pour vivre et ressentir les éruptions, pour mieux les décrire et les caractériser. Au total, pour ce premier voyage, Maurice, Katia et Roland vont passer près de 3 mois à traverser l'Islande, ajoutant plus de 10 000 km au compteur de leur petite 4L. Jour après jour, semaine après semaine, ils écrivent, échantillonnent, répertorient, comparent, analysent, et déjà ils filment et photographient. Ce sont les débuts de ce qu'on va appeler plus tard la méthode Kraft. L'étude de la science sur le terrain et la preuve scientifique par l'image. C'est sur les bancs de l'Université de Strasbourg que Katia Conrad et Maurice Kraft se rencontrent. Lui étudie la géologie, elle se passionne pour la chimie. Et ensemble, ils découvrent qu'ils partagent une passion commune, la volcanologie. Le soir, après les cours, Katia et Maurice se retrouvent non loin de la fac, au Café de la Victoire. Ils parlent pendant des heures de l'Etna, du Stromboli, qu'ils ont vu chacun dans leurs propres yeux lorsqu'ils étaient enfants. Des volcans qui leur inspireront un projet un peu particulier, celui d'un petit guide.
On peut imaginer d'organiser des vacances avec pour thème les volcans, Katia.
Oui, c'est certain, parce que moi je prends mon exemple précis. Le jour où j'ai voulu aller voir des volcans, j'avais 15 ans, j'ai entraîné mes parents à visiter les volcans d'Italie et Sicile, qui sont finalement les volcans les plus proches de la France, et des volcans régulièrement actifs. Le Stromboli, on a, disons, 99% de chances de le voir en éruption. Et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant d'écrire un guide géologique, où on donne des conseils pratiques et des itinéraires
géologiques. Et vous décernez même des étoiles aux volcans.
Alors on donne des étoiles aux volcans les plus intéressants, les plus caractéristiques.
Si l'alchimie prend aussi vite entre ces deux-là, c'est que Maurice et Katia ont deux tempéraments opposés, mais qui se complètent parfaitement. Elle est calme, réfléchie et souriante, lui souvent bougon, entreprenant et parfois impulsif. Ensemble, ils forment un couple d'amour et de science. Un couple dont le cœur bat au rythme des éruptions volcaniques, des phénomènes géologiques profonds, et qui sont à l'époque très mal compris car peu étudiés. Dès qu'un volcan se réveille sur la planète, les Kraft sont alertés par un réseau de scientifiques et de passionnés à travers le monde, ou parfois même en écoutant la radio. Comme ici, en 1973, lorsqu'une nouvelle éruption géante frappe l'Islande.
Nous étions chez nous, à ce moment-là, on l'a entendu, sur France Inter, d'ailleurs à 7h du matin, je me souviens. Et le soir, on était partis. Enfin, l'après-midi, on était partis.
Alors, Katia, les valises, tout de suite, c'était...
Ah, ça, c'est immédiat, oui. C'est-à-dire qu'il y a les deux minutes d'hésitation où on se dit, on n'y va pas. Et ensuite, il faut faire très vite.
Et là, vous êtes arrivés sur place. Des problèmes avec les autorités?
Non, parce que, disons, les autorités, on les connaissait bien. Et quand nous sommes venus pour étudier l'éruption de l'Eltfeld, qui veut dire montagne du feu, eh bien, on a été tout de suite vraiment aidés. Et on a été d'ailleurs les premiers volcanologues étrangers à aller sur place, à y être, à arriver sur l'île très vite. Et on a collaboré là-bas avec les volcanologues islandais. Et il faut vraiment dire que c'était dantesque. Quand vous voyez des fontaines de lave sur presque 2 kilomètres de long, un rideau véritablement en fusion à 1000 degrés, juste derrière les maisons.
Donc, on apprend au passage que les Kraft écoutaient France Inter. Bien. Aidés par des volcanologues islandais, Katia et Maurice se rendent à quelques dizaines de mètres du volcan Eldfell. Pendant des heures, le couple observe les fontaines de lave jaillir et leur couler redescendre sur le bord. En bas, les habitants chargent leurs voitures et évacuent les villages alentours. Les autorités islandaises, elles, sont dépassées par l'ampleur de la coulée. Leur vient alors une idée folle. S'ils bombardaient le volcan avec un avion militaire afin d'ouvrir une brèche sur l'autre versant pour que la lave se déverse vers la mer et non vers le centre de l'île. Finalement, l'idée est abandonnée par peur que le volcan ne se mette à recracher plus de lave. Deuxième idée des Islandais, refroidir les coulées. Comme le pays est entouré d'eau, ils demandent l'aide des Américains et reçoivent 37 moteurs-pompes géantes de la marine américaine. Les Islandais vont ainsi déverser plus de 5000 mètres cubes d'eau de mer par heure sur la lave, soit l'équivalent de 2 piscines olympiques. Le procédé va être reproduit en continu toutes les heures pendant 3 semaines. Résultat de cet effort titanesque sur le plan humain et mécanique, la température de la lave passe de 1000 à 600 degrés. Conséquence, les coulées se figent et forment un mur qui atteint par endroits les 30 mètres de haut. Maurice et Katia réalisent alors que face à la violence de certains phénomènes volcaniques, l'homme ne peut pas lutter. Alors, que faire? Eh bien, l'idée germe chez eux de sensibiliser les habitants de ces régions volcaniques face aux dangers qui les guettent. Prévenir les catastrophes sera l'un de leurs leitmotivs.
Avant toute éruption volcanique, un volcan, comme un malade, eh bien, commence par avoir des frissons. Donc il y a des séismes qui montent sous le volcan, parce que le magma monte. En plus, il se gonfle, comme si un abcès se formait. Les pentes augmentent, les diamètres des cratères augmentent. Et puis aussi, l'haleine du volcan change. Il commence à avoir une haleine fétide. Donc les gaz volcaniques changent de composition. Et enfin, la température augmente, puisqu'il a la fièvre.
L'aventure est belle, pleine de promesses et d'enrichissements scientifiques. Mais au contact des volcans qui vont désormais étudier, la réalité du danger va se rappeler à eux. En Afrique d'abord, en Amérique ensuite, et enfin au Japon. Parce que là-bas, sous leurs yeux, les volcans s'apprêtent à tuer.
Had a stupor, sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire.
creuser.
Aujourd'hui, les époux volcanologues Katia et Maurice Raft.
Affaires sensibles sur France Inter.
Nous manquons encore pour l'instant d'informations sûres à propos d'une éruption volcanique qui se serait produite au Zaïre, en Afrique centrale. En effet, selon certaines sources, la radio belge en l'occurrence, l'éruption subite du Mirakongo, un volcan bien connu des spécialistes, aurait fait 2000 morts et des dégâts matériels considérables.
10 janvier 1977, montagne des Virunga, Zaïre. À plus de 3400 mètres d'altitude, un drame d'une ampleur inimaginable vient de se jouer au sommet du volcan Nyiragongo. En l'espace de quelques dizaines de minutes, le lac de lave géant qui stagnait sur le cratère sommital du volcan et qui s'était accumulé depuis 50 ans se vide, oui, comme une baignoire percée. Et des millions de mètres cubes d'une lave très fluide, dont la température dépasse les 1100 degrés, se déverse sur les pentes et les plaines environnantes. Goma, la grande ville située à 10 km du volcan, est à deux doigts d'être engloutie. La lave s'arrête en bordure de l'aérodrome. La catastrophe a lieu en plein milieu de la journée, alors que des milliers de personnes sont sur les routes pour aller au marché. Et plusieurs centaines d'entre elles se retrouvent prises au piège et meurent brûlées ou asphyxiées par les gaz toxiques qui s'en échappent de la lave. Témoins de cette catastrophe, les volcanologues Katia et Maurice Raft sont les premiers scientifiques à observer cette scène d'apocalypse sur place. Autour d'eux, un paysage sombre, fumant et rempli de désolation. Des dizaines de villages qui se trouvaient sur les flancs de montagne du volcan ont été ravagés. Une photo que prennent les deux volcanologues témoigne des dégâts. L'empreinte de la trompe et les os de la tête d'un éléphant qui vient de périr, carbonisé. Ce voyage est un nouveau choc pour les Kraft. La mort et le chaos s'invitent dans leur aventure scientifique. Katia et Maurice savaient déjà mieux que personne que les volcans sont imprévisibles. Ils réalisent dès lors que le danger pour l'homme est immense si l'on n'informe pas les dizaines de millions de personnes qui, à travers le monde, vivent dans des zones à risque. Leur mission scientifique se double dès lors d'une mission de prévention des risques.
Ce qu'on ne sait pas prévoir actuellement, c'est donc l'intensité de l'éruption et ce qu'on appelle en anglais la gâchette, c'est-à-dire le moment vraiment où l'éruption démarre. Où le magma, tout à coup, bon, il y a une instabilité qui se fait, celle-là, on ne sait pas la mesurer. Et tout à coup, pof, ça démarre.
Dans le milieu de la volcanologie, au fil des années, Maurice et Katia Kraft sont surnommés par leurs confrères les coureurs de volcans. Leur spécialité, les plus dangereux, mais les gris, comme disent les spécialistes, ceux qui explosent, ceux qui tuent. À chaque congrès ou chaque conférence internationale, Katia et Maurice prennent la parole. Et ils racontent avec force détail les éruptions auxquelles ils ont assisté et les phénomènes volcaniques qu'ils ont vus et étudiés. Leurs confrères du monde entier sont captivés, eux qui passent 90% de leur temps dans leur labo à échantillonner, à analyser, modéliser, et qui n'ont que très rarement l'occasion d'aller sur le terrain. Alors, Maurice et Katia leur apportent photos, films, échantillons, et surtout, leurs témoignages, pour comprendre le déroulement des phénomènes. Une matière précieuse, inestimable. Au point d'ailleurs, que certains de leurs confrères commencent à les jalouser pour leur liberté d'action et leur présence sur le terrain au bon moment. Comme en témoigne Philippe Dupont, du musée Vulcania à La Réunion.
En gros, c'était très souvent les premiers sur une éruption et tout bon volcanologue a envie de voir le début d'une éruption. C'est là qu'il se passe le plus de choses. Une fois que le phénomène a démarré, c'est très beau. On peut faire plein d'études, mais il y a quand même des éléments importants en tout début d'éruption. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'ils ont apporté, c'est-à-dire ne pas être circonscrit dans un schéma scientifique officiel qui fait que il faut beaucoup de papier pour pouvoir se déplacer. Eux, c'était un coup de téléphone, un réseau d'amis partout aux quatre coins de la Terre. Il y a une éruption là-bas, on y va, ou tu y vas, Katia, parce que moi je fais une conf ou quelque chose, mais on est sur place, et quand on est sur place, on y est 15 jours, 3 semaines, on dort volcan, on mange volcan. Souvent ils oubliaient de manger, apparemment, d'après ce que disaient ceux qui les accompagnaient, c'était vraiment une immersion complète dans le volcan, les pieds dans la lave. Ben, il l'auscultait comme un médecin qui serait au chevet d'un malade 24 heures sur 24. Et à partir de là, on découvre beaucoup de choses. Et ils ont en plus, après, réussi à le retranscrire en images et donc à sensibiliser le public.
Alors évidemment, cette vie autour du monde à la poursuite des éruptions a un coût. Pour financer leur voyage, Maurice et Katia enchaînent les films, les livres, les interviews. Mais leur méthode, c'est aussi d'ouvrir un annuaire, y noter l'adresse des plus grosses entreprises françaises et envoyer à chacune une lettre pour leur demander du soutien. Sur les 1500 industriels français contactés en 1971, 150 vont accepter de les financer. Certains, parfois, joueront même le rôle de sponsor. Et puis à cela s'ajoutent les financements d'organisations internationales, bien sûr, telles que l'UNESCO. 18 mai 1980 est à Washington, côte ouest des États-Unis. Depuis le lever du jour, le géologue américain David Johnston est de permanence sur un petit poste d'observation situé à plus de 10 km du mont St. Helens, un stratovolcan géant. Voilà plusieurs mois qu'un regain d'activité fait craindre une possible éruption. Ce matin-là, il est 8h30 lorsqu'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter provoque l'effondrement du sommet de la montagne. S'ensuit un glissement de terrain d'une ampleur jamais vue au XXe siècle. Et enfin, une éruption gigantesque. Une nuée ardente, appelée aussi coulée pyroclastique dans le langage scientifique, déferle du volcan et se déverse sur un lac et une rivière à proximité qu'elle engloutit, oui, en quelques minutes. Et une colonne de cendres s'élève dans l'atmosphère, visible depuis l'espace. Parmi la cinquantaine de victimes recensées, David Johnston, le géologue américain, meurt sur le coup. Interrogé au micro de France Inter, Maurice Kraft raconte.
L'un des deux volcanologues qui a été tué au Mont Sainte-Hélène, je le connaissais très bien, c'était un ami de longue date, il s'appelait David Johnston, et il était à 10 km au nord du volcan. Et il a pris le souffle en plein sur lui, il a juste eu le temps de dire dans sa radio « Vancouver, Vancouver, this is it ». Et on ne l'a jamais retrouvé, le pauvre. Il a été complètement emporté par ce souffle. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis dans cet endroit dangereux? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un souffle qui aille vers le nord du volcan, mais on s'imaginait qu'il irait au maximum jusqu'à 7-8 km. Et en fait, il est allé jusqu'à 30.
À 53 km du volcan, des randonneurs feront des photos hallucinantes du panache de cendres grises qui recouvre le ciel d'une partie du nord-ouest des États-Unis et du Canada. Maurice et Katia Kraft, eux, ont manqué cette éruption. Ils arrivent sur place 2 jours après le drame. Leur première photo à la descente de l'avion montre un univers grisâtre où tout semble recouvert de poussière. Des millions d'arbres sont balayés comme un château de cartes. Des centaines de voitures sont projetées par le souffle. Et enfin, il y a cette peur qui se lit dans le regard des habitants. À bord d'un hélicoptère, les Kraft survolent le cratère du St. Helens. Le pilote refuse de se poser. Mais Maurice insiste, affirmant qu'il s'agit d'une urgence scientifique pour comprendre ce qui s'est passé. Au total, les Kraft restent 3 mois sur le site de la catastrophe. 3 mois d'enquête qui les amènent à une conclusion sidérante. Lors de l'explosion, le volcan aurait rejeté près de 3 km cubes de roche dans l'atmosphère. Un chiffre astronomique qui équivaut à 3 fois le volume d'eau d'un lac comme celui d'Annecy en France. Autre statistique qui donne vertige, la puissance de cette explosion serait de l'ordre de 25 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique lâchée par les Américains à Hiroshima.
Une bombe volcanique, c'est une roche qui est éjectée par le volcan, une roche souvent sous forme de lave. Le plus simple, c'est de vous en montrer une bombe de vulcano.
Ça pèse lourd?
Ça peut aller jusqu'à quelques tonnes, celle-là non, elle a 1-2 kilos.
Quoi qu'il en soit, sur la tête, ça ne doit pas être très agréable. Maurice Kraft, est-ce que ces volcans ont des personnalités différentes? Avez-vous essayé de les classifier?
Les classifications sur les volcans, c'est à bannir, finalement. Se classer un volcan, ce n'est pas possible. Chaque volcan a sa personnalité.
Ouais.
Et sans être méchant, il faut bien dire que c'est toujours les vieilles barbes et académiciens qui font leur classification. Alors toute une génération a été obligée de s'y tenir. Il n'y a rien de vrai dans tout cela.
5 ans plus tard, nuit du 13 au 14 novembre 1985, nous sommes en Colombie. Situé à plus de 5300 mètres d'altitude, sur les flancs de la cordillère des Andes, le volcan Nevado del Ruiz entre en éruption après 140 ans de sommeil. Sous l'effet de la chaleur, les quelques milliers de tonnes de neige de glace qui se sont accumulées à son sommet se mettent à fondre en quelques minutes. Puis elles dévalent les pentes sous forme d'une monstrueuse rivière de boue. Une vague de plus de 20 mètres ensevelit alors la ville voisine d'Armero Guayabal. Le bilan est de plus de 20 000 morts, pour autant disparus. Katia Kraft arrive sur place 48 heures après la catastrophe. Elle est seule. Maurice, lui, est retenu par une tournée de conférences. Des témoins lui racontent avoir vu une montagne de boue avaler leur famille et leur maison sous leurs propres yeux. Non loin, sont entassés au bord de chemin des centaines de cadavres d'hommes, de femmes et d'animaux. Le choc est d'autant plus grand que cela fait plusieurs semaines que des scientifiques alertent les autorités colombiennes du risque d'éruption du volcan. C'est à partir de cette catastrophe du Nevado del Ruiz que les Kraft se lancent dans leur projet avec le soutien de l'UNESCO, un programme vidéo pour sensibiliser les riverains des volcans aux risques encourus et surtout apporter aux autorités toutes les informations nécessaires avant de prendre la décision d'évacuer ou non une zone à risque potentiel ou avéré. Et c'est dans ce cadre qu'ils vont se rendre en Alaska, sur le volcan Augustine, et par la suite au Japon, au mois de juin 1991, pour observer et documenter les volcans dangereux. Lunzen, au Japon, sera leur dernier voyage.
Une information en provenance du Japon.
Oui, c'est un médecin japonais qui a requis l'anonymat et qui nous indique que parmi les corps retrouvés après l'éruption du volcan au Japon, on a pu identifier d'abord le corps de ce fameux chercheur américain. Il reposait dans un temple près de Shimabara. Et ensuite, on a repéré le corps d'une femme étrangère. Or, il apparaît que la seule femme étrangère présente sur les lieux était une Française, Katia Kraft, qui, avec son époux Maurice, a sillonné le monde au cours de ses 25 dernières années à la recherche des volcans en éruption.
Mercredi 5 juin 1991, la nouvelle tombe en milieu de journée. Les noms de Katia et Maurice Kraft viennent s'ajouter à la liste des personnes décédées après l'éruption du mont Unzen. C'est à la télé que Bertrand Kraft, le frère de Maurice, apprend la nouvelle. 24 heures plus tôt, les autorités japonaises lui avaient demandé l'empreinte dentaire de Katia et Maurice pour procéder à une authentification. Car, jusqu'à la dernière minute, Bertrand Kraft était persuadé que son frère et sa belle-sœur étaient toujours vivants et qu'ils s'étaient réfugiés quelque part, dans un abri. Professeur d'université en biologie, Bertrand Kraft connaît le danger d'aller étudier les volcans. Il sait aussi que Maurice et Katia ne sont pas des têtes brûlées. Par le passé, Maurice a pris des risques en Indonésie, en naviguant par exemple sur le plus grand lac Tasid en canoë. Oui, ils allaient au plus près, mais ils ne jouaient pas avec les limites et le danger. Terrible présage. Quelques jours avant leur disparition, Maurice s'était entretenu par téléphone avec son éditeur chez Gallimard et lui avait dit « L'éruption de Lunzen est sûrement la plus dangereuse que j'ai vue de ma vie. » De fait, l'explosion sur Lunzen et la nuée ardente ont dépassé toutes les prévisions des scientifiques. Katia et Maurice se trouvaient à 4 km du cœur du volcan lorsqu'ils ont été tués. D'autres personnes sont mortes au-delà même de la limite dite de sécurité, donc au-delà de cette distance. Les Kraft laissent derrière eux un héritage inestimable pour les centres de recherche en volcanologie du monde entier et une incroyable collection d'objets de notre quotidien, abîmés ou à moitié calcinés qu'ils ont collectés sur les sites d'éruption comme autant de preuves de la violence des phénomènes volcaniques qu'on leur doit. Car même endormi, un volcan ne meurt jamais.
Danser sur un volcan, jouer sans souci du temps, c'est le rêve. Fragile, irréversible, envie d'être éternel. Se lever. Sans jamais se dire.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Et effectivement, les volcans ne meurent jamais. Les volcanologues, eux, peuvent y laisser leur peau. Et on vient de le raconter. Nos deux invités aujourd'hui, le volcanologue et muséographe André de Maison. Bonjour.
Bonjour, Fabrice.
Amis intimes de Maurice et Katia, pendant 19 ans, vous les avez accompagnés dans plusieurs de leurs expéditions. Vous êtes l'auteur d'un livre qui revient sur leur aventure, intitulé « Les diables des volcans », publié en 2011 aux éditions Glénat. Avec nous également le producteur et réalisateur Julien Dumont, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Directeur du musée du cinéma miniature de Lyon, vous préparez avec André de Maison un long métrage sur l'histoire des crafts. On a hâte de le voir après avoir entendu l'histoire. Enfin, j'espère. Quels souvenirs vous laisse personnel, Katia et Maurice Craft, André?
Oh ben, c'est difficile à dire. C'était des amis avant tout pendant 19 ans. Ouais. Or, perdre des amis, c'est toujours difficile. Et perdre des amis dans une situation comme celle-là, c'est encore plus dur. Oh ben, Maurice et Katia Craft, c'était avant tout de l'énergie. De l'énergie qu'ils puisaient sur les volcans, sur les éruptions volcaniques. Et puis, cette énergie qu'ils souhaitaient partager avec le public quand ils réalisaient des conférences. Donc, deux personnes exceptionnelles. Un couple de volcanologues, collègues, mari et femme. Et voilà, qui ont marqué de leur personnalité, de leur pugnacité, de leur humour, de leur parcours.
Et très pédagogue aussi, quand on les entend. Ils sont d'une clarté absolue, ça c'est formidable.
Oui, très pédagogue, et en plus ils s'intéressaient beaucoup aux enfants. Et du reste, c'était la première fois que des volcanologues réalisaient des films pour enfants, des livres pour enfants. Katia était la première femme à réaliser, à écrire des livres pour enfants. Voilà. Alors qu'avant, on n'y pensait absolument pas.
Et on n'aime jamais autant les scientifiques quand ils nous parlent comme nous on parle. Et dans ce qu'on a entendu, de Maurice notamment, il nous parle de façon tellement simple, formidable. Oui. Donc c'était pour lui important de vulgariser, comme on dit.
C'était très important. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. À une époque où la vulgarisation était considérée par le milieu scientifique comme
vulgaire.
Comme très vulgaire. Et si, à un moment, un scientifique avait le souhait de se lancer dans la vulgarisation, eh bien, il pouvait dire au revoir à sa carrière.
Julien Dumont, alors on l'a dit dans le récit, les Craft nous lèguent un héritage scientifique et artistique hors normes, plus de 300 000 photos, plus de 800 heures de films qui sont aujourd'hui entre vos mains. Quel trésor, hein. Que découvre-t-on lorsqu'on fouille dans ce trésor?
Eh ben, déjà, pour revenir juste sur la base, mais c'est pour moi un rêve de gosse qui grandit avec les livres des Craft. Mes parents les avaient vus en conférence et me parlaient des Craft alors qu'ils n'étaient pas du tout passionnés de volcanologie. Mais ça les a marqués. Et ayant grandi dans les livres des Craft, je me retrouve, grâce à une série de différents événements, propriétaire donc de ce fonds qu'on a récupéré. Et donc, c'est dans les réserves du musée, c'est gigantesque. Et avec André, donc on regarde le fond et les images sont hallucinantes. On a avec Katia une scientifique hors norme, hein, comme Maurice, mais des artistes aussi hors norme et un point de vue sur les éruptions. Enfin, c'est complètement fou d'imaginer que Katia ou Maurice prenaient des photos et des films d'éruptions volcaniques absolument dangereuses pour tout ce qui est de l'environnement. Mais le cadre est fabuleux, en fait.
Vous dites que vous étiez fasciné dès que vous avez été gosse par les volcans. Ouais. C'est quoi les ingrédients d'une fascination pour un volcan? Qu'est-ce qui vous fascine précisément?
Mais je pense que c'est un peu ce qu'on dit souvent avec André, c'est qu'on ne peut pas se... Il n'y a pas d'événement plus fort sur Terre qu'un volcan. Vous n'avez pas de phénomène plus important que ça. Et c'est à la fois somptueux, c'est beau, c'est destructeur, ça donne la vie. Oui. Enfin, c'est à la fois philosophique, scientifique et artistique, c'est juste fabuleux en fait.
Et puis ça donne de l'énergie d'assister à une éruption volcanique, ça vous donne énergie que vous procure l'éruption volcanique elle-même. C'est, comme disait Maurice, c'est beau à tomber à genoux, quoi.
Et ça vous change votre vision de l'échelle humaine, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite qu'on est vraiment plus grand-chose. C'est un peu, je trouve, le même effet que les astronautes racontent quand ils vont en orbite et qu'ils parlent de la toute petite fine atmosphère de la Terre et qu'ils se rendent compte de l'échelle. Et ben, le volcanisme, c'est un peu la même chose. Quand on voit le Mont Sainte-Hélène, les destructions, quand on pense que le lac Spirit a été déplacé de 500 mètres, à quel moment on prend un lac et on le déplace de 500 mètres, enfin, c'est complètement fou.
Et puis, tout est force. Hallucinante, quand on explique, on donne les chiffres, qu'on fait des comparaisons, on s'aperçoit que quand la nature décide de se mettre en colère, parce que l'habitude de se mettre en colère, on n'est pas grand-chose. Pardon pour le cliché, mais là, c'est ça ce que nous dit un volcan. C'est la nature, oui, ben vous pouvez être fasciné par elle. Elle en vaut la peine, mais attention, c'est elle qui décide. Oui.
Mais il faut beaucoup d'humilité pour être volcanologue et assister à des éruptions volcaniques, parce que les scientifiques savent que c'est pertinemment un phénomène qu'ils ne maîtriseront jamais. Donc, voilà, il faut beaucoup d'humilité. Voilà. Et alors que vous avez des domaines, vous pouvez totalement maîtriser votre sujet. Vous pouvez rentrer chez vous à 18h, aller regarder la télévision. Tandis que Maurice et Katia, c'était manger du volcan voilà, matin, midi et soir. Quand ils étaient chez eux à Wattwiller, en Alsace, voilà, ils parlaient volcan. Ils travaillaient volcan. Enfin, voilà, c'était une passion, mais c'était plus qu'une passion. C'était une philosophie de vie. Et c'était un mode d'être. Et Maurice et Katia se disaient souvent, s'il n'y avait pas eu les volcans et les éruptions, on se serait sans doute lassé de l'être humain.
Possible, effectivement. Alors, on l'a dit, c'était pas des têtes brûlées. Bon, ils sont morts, mais il faut surtout pas imaginer qu'ils ont pris des risques inconsidérés. Bon, voilà, ça arrive même aux gens prudents. Mais ils étaient quand même audacieux. On va écouter une archive qui date du 11 août 1977, au micro de France Inter. Décidément, ils étaient attachés à notre antenne. Maurice Kraft parle de son prochain projet audacieux, donc, comme d'habitude.
J'ai un autre projet qui, lui, est très sérieux. C'est un rêve d'enfant que je veux réaliser. C'est descendre une coulée de lave dans un canot, sur une quinzaine de kilomètres de longueur. Ça peut se faire à Hawaï, ça se fera probablement ici si j'arrive à mettre sur pied l'opération. Et je fais tout en ce moment pour la mettre sur pied. Alors, comment sera le canot? En fait, ce sera une capsule, comme une capsule Gemini, avec en dessous une protection en un alliage de titane, puis des briques réfractaires. Un hélicoptère viendra déposer la capsule sur la coulée de lave et on va descendre tout ce fleuve jusqu'à la mer.
Petite précision, la capsule Gemini, c'était la capsule préparatoire. Le programme Gemini était le programme préparatoire au programme Apollo. Julien Dumont, si Maurice Kraft n'a pas réalisé son projet, en revanche, il a navigué sur le plus grand lac acide du monde.
Le Kerguelen. Hein,
et il a bien failli y perdre la vie. Racontez-nous, parce qu'il existe des photos de cet épisode.
Alors, c'est assez génial quand on découvre les photos et les films dans le fond. C'est de se rendre compte en fait que Maurice, bah ça André tu pourras le dire, mais qu'ils sont allés chercher un canot pneumatique au Puy de Saint-Ouen, donc un canot en plastique usagé, et qu'ils ont navigué sur ce lac d'acide, et c'est les premiers qui font ça, et ils récupèrent des photos et des documentations inédites, des relevés en profondeur du lac d'acide, ils ont avec plusieurs personnes, il n'y a pas que Maurice, et ils le font à tour de rôle, et on découvre, il y a des espèces de globérules, tu sais, des accrétions dans le lac d'acide, des choses incroyables qu'on découvre que personne ne savait en fait. Donc,
En droit de maison, c'est quoi un lac acide ?
Ah ben, un lac acide, voilà, c'est, vous imaginez un cratère, un gros trou qui sent, qui pue, qui pète, et voilà.
Il essaie toujours de placer ça à la radio.
ça vient pas de moi, je le tire de Maurice, quand il présentait ses conférences, c'est un peu comme ça qu'il se présentait, comme quelqu'un qui aime tout ça. Et ben voilà, c'est quoi ? Et c'est un mélange d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique généré par les fumerolles du volcan. Et comme dans le volcan, il y a de l'eau de pluie qui tombe, qui remplit le rein, eh bien, vous avez de l'acide sulfurique, voilà. Donc,
c'est charmant, comme balade.
Oui, c'est charmant. Bien sûr, toutes les personnes autour de lui conseillaient de ne pas le faire. Alors, il y avait le clan des géologues, des inconscients, qui disaient « si, si, on va le faire ». Et puis, il y avait les clans des géochimistes et des chimistes qui disaient « absolument pas, c'est une folie, il faut absolument pas faire ça ». Donc, ils ont fait deux navigations. Une première qui a bien fonctionné et une deuxième, mais qui a bien fonctionné parce que, si vous voulez, ils avaient une éprouvette pour faire des prélèvements à certaines profondeurs au bout d'un câble d'acier. Or, malheureusement, le câble d'acier a été sectionné par l'acide au bout de 5 minutes. Donc, ils auront fait une deuxième tentative. Là, ça s'est bien passé. Ils ont pu faire des prélèvements, mais malheureusement, il y avait un vent contraire. Et ce vent contraire les a empêchés pendant 1 heure à 1 heure et demie de revenir sur les berges du lac, bien qu'ils aient été à plus de 200 mètres de la berge du lac.
Ah, c'était chaud, donc.
C'est chaud.
C'est qu'à le dire. On se retrouve, messieurs, dans 2 minutes et demie. On écoute Emma Peters. Feu.
à moi, en revêt chargé, je remets le feu. T'as compris, je mets le feu, ouais. Si près du but, non, je lâcherai rien pour eux. J'ai tout niqué, t'as paniqué, dis-moi adieu. Serre-moi, en revêt chargé, je remets le feu. Tous les jours en survêt, je tourne en rond jusqu'au matin. Une petite voix dans ma tête crie ton nom, ça rend zinzin. Quand j'arrive à fermer les yeux, sur ma vie je fais un peu. Du mal à supporter l'échec, mon cerveau ne fait jamais de break. Je calcule pas le temps qu'il fait, ici tous les jours sont fériés. Je sais pas comment m'habiller, quel pyjama je vais enfiler. Chérie, si tu t'éprends de moi, s'il te plaît ne t'attache pas. Ne fais pas comme moi, non, je suis pas là pour ça. Et moi je mets le feu, ouais. Je veux tout brûler, je veux voir ça dans vos yeux. Ouais. Y'a rien qui m'excite si on n'est plus tous les deux. Serre-moi un revêt chargé, je remets le feu. Ouais, t'as compris, je mets le feu, ouais. Si près du but, non, je lâcherai rien pour eux. J'ai tout niqué, t'as paniqué, dis-moi adieu. Serre-moi un revêt chargé, je remets le feu.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Entre deux maisons, on l'a dit, les Kraft ont consacré une partie de leur carrière scientifique à la prévention des risques. Oui. Ça ne veut pas dire, j'imagine, que les volcans sont nos pires ennemis.
Mais non, si vous voulez, dans la presse ou à la télévision, on présente les volcans, vous savez, quand on n'a plus rien à présenter à la télé ou à la météo, et on les présente comme des tueurs. Mm-hmm. Alors, je voudrais m'inscrire en faux. Les volcans ne sont pas des tueurs aussi abominables qu'on veut bien nous les présenter, car statistiquement, par siècle, il y a environ 100 000 personnes qui meurent dans une éruption volcanique. Vous allez me dire, c'est très important. Oui, peut-être. Mais on oublie trop souvent que 2 300 000 ou 2 700 000 personnes meurent chaque année par les accidents de la route. Alors, on râle sur les volcans, mais on ne râle absolument pas sur les problèmes de la conduite automobile.
Si, on râle, mais si, on fait des choses, mais bon, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Bien sûr. Julien Dumont, quelles sont les images qui, pour vous, sont les plus belles et peut-être les plus spectaculaires parmi toutes celles des archives des Kraft?
Alors, moi, personnellement, il y a vraiment des images qui me touchent. C'est celle de Maurice et Katia. Alors, c'était souvent Katia qui était filmée par Maurice. Katia prenait les photos, Maurice filmait. C'était un travail en commun parfait. Et donc, Katia portait la tenue, et comme elle est un peu plus petite, le phénomène paraissait un peu plus grand. Et il y a des images sublimes de Katia qui s'avance face à l'éruption du Krafla, en Islande. Et en fait, la lave remplit tout le cadre de l'image, et on a Katia qui avance doucement, sereinement, sur cette éruption. Et on sent très, très, même s'il y a un effet de focale, on sent très bien que la lave, elle tombe pas très loin. Et ça paraît complètement surréaliste. Et donc, il y a des images de folie, et c'est... C'est ça la force de Maurice et Katia, on le voit tout le temps dans le fond, c'est de trouver la beauté et le sublime dans les images tout en étudiant le terrain et en faisant des travaux scientifiques. Donc c'est vraiment un ensemble que je trouve fabuleux.
Tout le monde a le réflexe maintenant volcan égale l'Islande, parce qu'il y a eu un volcan qui nous a pourri nos vacances en 2011. Il ne fallait pas être parti ailleurs parce qu'on n'avait pas à revenir. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique celui-là parmi l'histoire de la volcanologie?
Donc, Ledjafjall,
voilà. C'est ça. Ah bah, c'est toujours arrangé pour pas dire le nom à l'antenne.
Oui, vous me laissez le soin de me planter.
Absolument. Qu'est-ce qu'il avait de spécifique à part avoir pourri nos vacances?
Avoir pourri nos vacances, c'est simplement un volcan qui était sous une partie d'un glacier. Donc, quand vous avez du magma qui arrive sous un glacier, ça devient explosif, voilà. Et donc, mais c'était quand même une petite éruption volcanique. Le gros problème qu'il y avait, c'était que les cendres impalpables vont dans la stratosphère.
Et étaient dangereuses pour les avions, notamment.
Se propagent dans les airs et arrivent dans les réacteurs des avions. Et d'un seul coup, ça fait de la céramique et ça bloque les moteurs.
Et vous
donc,
avez vous avez été consulté, vous, les volcanologues ont été consultés par la sécurité aérienne.
Oui, mais n'importe comment, depuis longtemps, il y a les compagnies aériennes ont des procédures en cas d'éruption volcanique, parce qu'en 1980, lors de l'éruption de Mont Galungung, il y a eu un panache qui est monté très très haut d'un seul coup, un dôme s'est effondré, un panache à plus de 10 km, voilà, de cendres, de blocs, de gaz, et puis alors que l'avion allait passer, il est passé dans le nuage de cendres, et ça a bloqué totalement ses réacteurs. Oui. Ils ont fait une chute de 9000 mètres, et les deux pilotes essayaient de faire repartir les moteurs, et ils ont pu le faire au dernier moment, avec la différence de température, ça a brisé la céramique qui s'était formée sur les réacteurs, et ils ont pu faire repartir les réacteurs. Et depuis, il y a des procédures.
Bien sûr. Julien Limon, avec André de Maison, vous préparez une œuvre de fiction consacrée à la vie et à l'aventure scientifique de Katia et Maurice Kraft, un projet que nous devrions voir bientôt sur les écrans.
Exact, alors c'est une histoire assez fabuleuse, passionné des Kraft depuis tout petit. Avec ma sœur, on décide d'écrire le scénario de ce film et on prend contact avec Bertrand Kraft. Et Bertrand nous donne le contact d'André et on commence à parler tous ensemble. Et à ce moment-là, je remercie aussi Bertrand parce que c'est lui qui nous a légué un peu tout l'héritage Kraft pour le faire perdurer avec tout le travail qu'André a fait pendant 30 ans. Et donc on s'attelait à la tâche et on écrit, donc l'écriture est finie, on travaille. Et moi en parallèle, je travaille sur la création d'une caméra spéciale qui pourra filmer au-dessus des coulées de lave, des choses qu'on encore jamais vu. J'aime autant l'ingénierie, je dirais, que le côté artistique. Et donc, voilà, on s'éclate. C'est assez fabuleux, tout ce qui est en train de se passer, avec le fond qu'on est en train de digitaliser. 300 000 photos, vous avez pu voir des images déjà nettoyées qu'on a fait dans le film de Herzog, qu'on a produit. Et donc, c'est magique de travailler là-dessus.
On termine dans 20 secondes. J'ai une question à vous poser, André de Maison. Dites-moi que Naples n'est pas menacé. Avec son Vésuve à côté.
Avec une éruption des Vésuve toujours possible, et vous, quand vous avez 3 millions de personnes qui vivent sur les flancs du Vésuve, eh bien, vous pouvez imaginer que s'il y a une éruption importante sur le Vésuve, toutes les conditions soient réunies pour faire un mauvais film d'aventure.
Mais là aussi, les procédures sont prévues aux délocations.
Tout à fait.
Évidemment, évidemment.
Absolument.
André de Maison, Julien Dumont, merci infiniment.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Kraft Volcanologues, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Despaz.